Les mille et une nuits, tome 8, chapitre 17. Histoire de l'esclave sauvé du supplice. Un esclave condamné injustement à la mort, et qui devait être exécuté sous peu de jours, n'avait pas pour cela perdu tout espoir de salut. Il mettait en Dieu sa confiance et s'écriait sans cesse. « Oh, toi qui peux changer tout à coup le sort des malheureux, viens à mon secours !» Le roi du pays, dont le palais était peu éloigné de la prison où l'on renfermait les criminels, fatigué de ses cris et indigné qu'un coupable osât espérer d'échapper au supplice qu'il méritait, demanda quel crime il avait commis. Ayant appris qu'il avait été condamné comme juridiquement convaincu d'avoir participé à un assassinat, il le fit venir, lui reprocha son impudence et sa folie, et ordonna qu'il fût exécuté sur le champ, quoique la nuit fût alors assez avancée. Des soldats s'emparèrent de l'esclave et le conduisirent hors de la ville. Les bourreaux venaient de le délier et se préparaient à l'attacher à la croix lorsqu'une troupe de brigands bien armés fondit tout à coup sur eux. Effrayés de cette attaque imprévue et hors d'état de faire résistance, les uns sont pris, les autres se réfugient vers la ville. L'esclave, abandonné, prend la fuite d'un autre côté, court à travers les champs et se retire dans une forêt voisine. Un nouveau danger l'y attendait. Il y rencontra un lion d'une grandeur énorme. Cette vue l'épouvante, mais ne l'empêche pas d'espérer dans la Providence. L'animal se jette sur lui, l'emporte et le dépose près d'un arbre extrêmement touffu. Il arrache ensuite l'arbre sans perdre de vue sa proie, le place sur l'esclave et va dans le plus épais de la forêt chercher la lionne sa compagne. L'esclave sent alors augmenter son espoir. Il fait effort pour se dégager de dessous l'arbre, écarte les branches et vient à bout de sortir de cette espèce de filet dans lequel le lion pensait le retrouver bientôt. Ce lieu était couvert des ossements et des débris des cadavres de ceux qui y avaient jusque-là servi de pâture au lion. En fuyant à travers ces ossements, l'esclave vit briller à ses pieds un monceau de pièces d'or. Il s'arrêta un moment, ramassa avec précipitation tout ce qu'il put emporter, et continua à fuir du côté opposé à celui vers lequel était allié le lion. Heureusement pour lui, il se trouva bientôt hors de la forêt et près d'un village. Il s'y réfugia, se reposa le reste de la nuit et se trouva le lendemain à l'abri de tout danger et possesseur d'une somme considérable. Le roi Azadbart interrompit ici le jeune page. « C'est assez, lui dit-il, écoutez tes discours séducteurs. L'instant de ton supplice ne peut plus être différé. » Les bourreaux se saisissent aussitôt de leur victime et l'emmènent hors de la ville, accompagnés d'une garde nombreuse. Le roi lui-même, suivi de toute sa cour, se rend au lieu du supplice. Le chef des voleurs, qui avait autrefois élevé le jeune homme comme son fils, se trouvait par hasard dans la foule rassemblée pour être témoin de l'exécution. Il demanda quel était le criminel. On lui raconta son histoire et de quelle manière il avait été fait prisonnier en attaquant une caravane et amené à la cour du roi. Le chef des voleurs pensa aussitôt que ce jeune homme pouvait être celui qui l'avait élevé et qui avait été fait prisonnier dans une circonstance toute pareille. Ses soupçons se changèrent en certitude lorsqu'il le vit paraître. Il perce aussitôt la foule, écarte les gardes et se jette au cou du jeune homme en criant « C'est mon fils, c'est cet enfant que je trouvais au pied de telle montagne, sur le bord de telle fontaine !» Azadbart, frappé de cet événement imprévu et surtout du discours de cet inconnu, ordonna qu'on l'amenât devant lui et voulut qu'il lui racontât tout au long ce qu'il savait de l'histoire de ce jeune homme. « Prince, dit l'inconnu, je sais qu'en me faisant connaître à vous, je m'expose à périr. Mais mon attachement pour ce jeune homme l'emporte en moi sur toute autre considération. Et j'espère que la singularité de son aventure et ma tendresse pour lui toucheront le cœur de votre majesté et exciteront envers nous sa clémence. Je fus autrefois chef d'une bande de voleurs. Nous trouvâmes un jour au pied d'une montagne et sur le bord d'une fontaine un enfant qui venait de naître, enveloppé dans une étoffe de soie. Près de lui était une bourse qui contenait 1000 pièces d'or. Touché de compassion pour cet enfant abandonné, je le pris, je l'emportai chez moi et je l'élevai avec autant de soin que s'il eût été mon fils. Lorsqu'il fut devenu grand, je l'emmenai dans nos courses et nos expéditions. Nous attaquâmes un jour une caravane composée de gens vaillants et bien armés. Plusieurs des nôtres furent tués, les autres obligés de prendre la fuite. Le jeune homme, que je regardais comme mon fils, eut honte de fuir, et fut fait prisonnier. Depuis ce temps, je le cherchais inutilement de tous côtés. Il n'en fallait pas davantage pour convaincre le roi Azadbart que celui qu'il allait faire périr était le fruit de son union avec la reine Berjour. Il se précipite aussitôt de son trône, vole vers son fils et le serre dans ses bras. « Cher enfant, s'écrie-t-il, objet de toute ma tendresse, j'allais t'immoler moi-même. Eh bien, je serais mort de douleur et de regret. » Il détache ensuite les liens du jeune prince, l'embrasse de nouveau et lui met sa couronne sur la tête. Le peuple fait aussitôt éclater ses transports. L'air retentit d'un si grand nombre de cris qu'ils épouvantent et font tomber çà et là ses léchés habitants. Les tambours et les trompettes entremènent leur bruit à ces démonstrations d'allégresse. Le roi et son fils sont reconduits en triomphe et rentrent dans le palais au bruit des fanfares et des acclamations de tout le peuple. La reine Berjour, informée de l'heureux événement qui vient de lui rendre un fils qu'elle ne cessait de regretter, sort à sa rencontre, se jette à son cou et l'embrasse en pleurant. Azadbart, pour célébrer un si grand bonheur, ordonna qu'on mît en liberté tous les prisonniers et que le réjouissance publique durasse pendant 7 jours. Il fit assembler les grands de son royaume et les principaux d'entre le peuple. Il monta sur le trône et fit asseoir à côté de lui le jeune prince. On servit ensuite un repas magnifique dans lequel on présentait aux convives des coupes d'or remplies du vin le plus exquis. Au milieu de l'allégresse universelle, les dix vizirs seuls étaient remplis de crainte et dévorés d'inquiétude. « Vous voyez, leur dit le jeune prince en se tournant vers eux, comment la Providence est venue à mon secours et m'a délivré du danger ?» Ces mots augmentèrent la frayeur et la consternation des dix vizirs. Ils avaient les yeux fixés contre terre et gardaient un morne silence. « Pourquoi, continua-t-il, vos bouches sont-elles devenues tout à coup muettes? Qu'avez-vous fait de cette hardiesse et de cette éloquence avec laquelle vous représentiez au roi l'indignité de ma conduite et vous l'excitiez à venger son honneur en faisant périr un innocent ?» Les dix vizirs, confondus et atterrés de plus en plus, attendaient en tremblant leur arrêt. Azadbart prit la parole à son tour et leur dit « Chacun ici partage ma joie. Les oiseaux mêmes semblent célébrer mon bonheur et remplissent le ciel de chants d'allégresse. Vous seul, ministre pervers, vous gémissez et vous détestez en secret ma félicité. Je serais aussi affligé que vous si je suivis vos conseils et la mort seule eût pu terminer mes regrets. Mon père, dit alors le jeune prince, votre justice, votre prudence, votre bonté, votre attention à rechercher et à examiner la vérité, votre lenteur à punir, ont triomphé de leurs artifices et vous ont épargné les cruels regrets que la précipitation cause trop souvent. Quant à moi, tout mon crime aux yeux de vos vizirs vint de mon zèle pour vos intérêts et pour ceux de votre état. Je réprimais leur avarice et leur cupidité, en les empêchant de puiser à leur gré dans vos trésors. Je suis devenu par là l'objet de leur haine, et ils s'étaient ligués pour me perdre. Azadbart, avant de faire punir les dix vizirs, voulut récompenser celui à qui il était redevable de la conservation de son fils. Il le félicita d'avoir renoncé depuis longtemps au genre de vie qu'il avait d'abord exercé, le fit revêtir d'une robe magnifique et lui donna un commandement dans lequel sa bravoure pouvait être utile à l'État. Non content de lui avoir témoigné sa reconnaissance, il invita les grands de son royaume à lui donner des marques de celles qu'ils devaient eux-mêmes éprouver. Tous s'empressèrent de le revêtir de robes précieuses, tellement qu'ils ne pouvaient les porter toutes et ne savaient que faire de tant de largesses. Le roi ordonna ensuite qu'on dressât 9 croix à côté de celles qui avaient été dressées pour le jeune homme et dit à ses vizirs « Perfide conseiller, malheureux imposteur, de quelle excuse pouvez-vous couvrir votre crime ?»« Sire, répondit l'un d'eux, nous chercherions en vain à nous excuser. Nous avons voulu faire périr un rival. Nous nous sommes perdus. Le mal que nous lui voulions est retombé sur nous. Nous avons recueilli ce que nous avons semé. Nous sommes tombés dans la fosse que nous creusions sous nos pas. » « Les délais seraient ici inutiles, reprit Azadbart. Le crime est évident, les coupables le confessent, et rien ne peut les justifier. Le supplice qu'ils vont subir ne fera que mettre fin à celui qu'ils éprouvent déjà. » Les soldats s'emparèrent aussitôt des vizirs, qui furent exécutés sur le champ. Les biens qu'ils avaient amassés par leurs rapines et leurs exactions furent confisqués au profit de l'État. Azadbart fit ensuite prêter serment de fidélité à son fils par tous les grands du royaume et les principaux du peuple. Il abdiqua l'autorité souveraine et remit dans ses mains les rênes du gouvernement. Scheherazade, en achevant l'histoire des dix vizirs, s'aperçut qu'il n'était pas encore jour et commença aussitôt le récit de l'histoire suivante. Fin du tome 8e.